on a chanté ce chant tout à l'heure sur les montagnes, là, c'était comment? Sion qui nous entoure. J'ai eu une révélation, une petite révélation, mais beaucoup dans la Bible, on parle de lever les yeux vers les montagnes. Pourquoi toujours lever les yeux vers les montagnes? Et puis, ouais, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça aurait pu être lever les yeux vers le lac ou vers la mer, ou vers, regarder là, pourquoi vers les montagnes? Et puis j'ai eu tout à coup cette idée, ben voilà, l'autre jour je voyais le Mont Blanc. Alors c'est magnifique, peut-être que je ne sais pas si vous le voyez encore en habitant là depuis longtemps, mais il est là, il est posé, il bouge pas, j'ai l'impression que c'est juste incroyable. Et je me suis dit, ben c'est en disant que Dieu va regarder vers les montagnes, c'est comme un point de repère. C'est un lieu, on sait que le Mont Blanc, il est là. Et même certains jours, on ne le voit pas, mais on sait que dans cette direction, je descendais l'autre fois depuis sur Tranchepied, je l'avais juste en face de moi. Je me suis dit, ben même si je passe une fois là, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Donc il y a comme une espèce de solidité, le Mont Blanc ne bouge pas, le Mont Blanc ne va jamais disparaître, et Dieu est aussi comme ça avec nous, je crois. Et puis l'autre fois, on était à Catherine au sommet de la Dôle. À un moment donné, on voyait les nuages, tout, et tout à coup, j'ai dit, mais c'est dommage qu'on ne voit pas le Mont Blanc, j'aurais bien aimé le voir aujourd'hui. Puis elle me dit, mais regarde, on le voit. J'ai dit, où ça? C'était vraiment bizarre, il y avait tous les nuages, une couche de nuages assez épaisse, et en-dessus du nuage, il se confondait avec les nuages, il y avait cette pointe du Mont Blanc qui dépassait, quoi. Alors, c'était juste magnifique, quoi. Donc on voit aussi le Mont Blanc sous différentes couleurs, différents aspects, mais il est toujours là. S'il n'est pas, le Mont Blanc, il ne sera jamais en Suisse centrale, il ne sera jamais. Au bord de la mer, il est là dans les Alpes, il ne bouge pas. Voilà, juste pour introduction. C'est quelque chose de fiable, de solide, un point de repère. Et on cherche souvent des points de repère, je pense. On a besoin de points de repère dans un monde qui bouge beaucoup, dans une situation pandémique où voilà, on avance, on espère bientôt s'en sortir, on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Ces points de repère sont importants. Alors ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un texte de l'Ancien Testament et voir ce qu'il peut signifier pour nous aujourd'hui. L'Ancien Testament nous donne, il y a des fois des textes bizarres hein, aussi dans l'Ancien Testament qui sont des fois difficiles à comprendre un peu, mais avec la révélation de Dieu, avec son esprit, on peut voir des choses aussi qui nous concernent aujourd'hui aussi. C'est comme une espèce de révélation qui est un peu cachée pour nous après Jésus est venu. Mais avec Jésus, on peut aussi comprendre beaucoup de choses par rapport à des textes de l'Ancien Testament. Donc le dernier message que j'avais donné, on s'était déjà intéressé à Élie, et en particulier aussi sa rencontre avec... Je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint déjà en place. Voilà. Merci. Sa rencontre de Dieu près de la grotte, hein, où il s'est réfugié. Vous vous souvenez peut-être ceux qui étaient là ou ceux qui ont entendu le message. Et il a rencontré Dieu dans ce doux murmure. Et aujourd'hui, on va lire un texte qui est quelques chapitres plus loin, dans 2 Rois, chapitre 2. Et là, ce texte nous parle de la transition, mais aussi d'une transmission entre le prophète Élie et Élisée. Donc, le prophète Élie qui a été enlevé au ciel. On peut peut-être pas montrer la deuxième image. Ah oui, excuse, ouais. Donc, il y a beaucoup d'images. Hein. C'était quelque chose d'assez extraordinaire quand Élie est parti au ciel, là. On le voit ici. Est-ce qu'il y a aussi un marqueur? Voilà. On le voit ici, laisse tomber son manteau. Puis Élisée. J'étais surpris ici. Il paraît déjà vieux. Élisée, j'imaginais plus jeune. Là, sur cette image, il est déjà assez vieux. Par contre, il est chauve. Hein. Ça, c'est quelque chose. On s'est moqué de lui un peu parce qu'il était chauve. Hein. Ils l'ont bien mis en évidence ici sur cette fresque. Donc voilà, le titre de mon message, c'est. Je ne savais pas trop quel titre mettre, parce que finalement, il y a pas mal d'éléments entre transition, transmission. Et voilà, j'ai mis transition et transmission bénie. Il y avait deux choses, je pense, une transition et puis aussi des choses qui ont été transmises à Élisée. Alors, on va lire ce texte ensemble qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 18. Je vais le lire dans la Bible, une Bible un peu différente, peut-être qu'on a l'habitude, c'est la Nouvelle Bible Second. Donc, soyez pas surpris si ça diffère un petit peu, mais je trouve aussi intéressant la traduction qu'on y trouve ici. Donc, 2 Rois 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans une tempête, Élie partait du Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ils descendirent à Bethel. Les prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître ?» Il répondit, « Je le sais, moi aussi. Taisez-vous. » Et lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les prophètes qui étaient à Jéricho vinrent dire à Élisée, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître ?» Il répondit, « Je le sais, moi aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent à marcher tous les deux. 50 hommes d'entre les prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en face, à quelque distance. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se divisèrent de part et d'autre, et ils passèrent tous les deux à sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois pris d'auprès de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton souffle. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai pris d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. » Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans une tempête. Élisée regardait et criait, « Père, Père, chars et attelages d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et ramassa le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Puis il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se divisèrent de part et d'autre. Élie passa. Les prophètes de Jéricho le virent d'en face. Ils dirent, « Le souffle d'Élie s'est posé sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Ils lui dirent, « Il y a parmi nous tes serviteurs 50 vaillants hommes. Qu'ils aillent donc chercher ton maître. Peut-être le souffle du Seigneur l'a-t-il emporté et jeté quelque part, dans une montagne ou dans une vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent tant et plus, si bien qu'il finit par dire, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent pas. Ils revinrent vers lui, qui était resté à Jéricho, et il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas. » Voilà ce qui entoure ce texte, de manière générale, un peu le contexte. Il est assez similaire finalement à ce que nous avons lu la dernière fois dans 1 Roi 19. Donc c'est un texte qui était écrit, auteur inconnu, mais la tradition juive l'attribue à Jérémie. Il se déroule dans une période de 400 ans, en gros, entre 900 et 600 avant Jésus-Christ. Et puis on est ici dans une des histoires, les livres des rois sont considérés au départ comme un seul livre, mais qui ont été ensuite séparés en deux. Mais il y a comme 3 sections et on se trouve ici dans cette deuxième section qui se trouve entre l'histoire en parallèle de Juda et d'Israël jusqu'à la chute de Samarie et aussi l'exil d'Israël en Assyrie. Donc c'est dans ce contexte qu'on se trouve ici, donc le même contexte qu'on avait aussi l'autre fois, lorsque Élie se trouvait aussi dans la grotte à Horeb. Alors qu'est-ce qui se passe avant qu'on revienne sur le texte précisément, un peu où se trouve avant, si on repart du chapitre 19, on s'était arrêté l'autre fois, jusqu'à ce qu'on arrive ici à 2 Rois chapitre 2, il y a l'histoire du roi Akab, du roi d'Israël, et aussi on nous parle de 2 victoires sur les Araméens, un peuple étranger qui était dirigé par le roi Aram. Il y a eu le complot d'Akab et sa femme Jézabel. Vous connaissez peut-être cette histoire, pour prendre la vigne de Naboth, avec surtout Jézabel qui a entre guillemets soutenu son mari pour qu'il puisse acquérir cette vigne en le faisant passer, passer Naboth pour un homme qui maudit Dieu et le roi, et qui mérite donc la lapidation, ce qu'il a donc subi. Ensuite, il y a encore Élie qui intervient, je dirais une dernière fois, avant qu'il quitte aussi la terre. Il annonce le châtiment d'Akab et de Jézabel, et puis ce châtiment, il est reporté sur la prochaine génération. Il y a eu ici Akab s'est humilié de son idolâtrie devant les dieux des Amorites, et puis Élie a dit, si tu t'humilies, ce n'est pas toi qui subiras le châtiment, c'est la génération qui va suivre. Au chapitre 22, on lit qu'il y a eu 3 ans sans guerre entre Aram et Israël, donc c'était plutôt une période calme. Et ensuite, il y a eu une préparation à conquérir cette ville. Et là, ils se sont mis ensemble, le roi de Juda, donc Josaphat, et puis aussi le roi d'Israël. Et puis là, Josaphat, il souhaite d'abord consulter l'Éternel, une bonne réaction. Et puis comme tous les prophètes prédisent la même chose, ils disent tous, ouais, tu vas gagner. Et puis Josaphat, il avait comme une intuition, il dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire la vérité, ils nous disent tous qu'on va gagner. Il n'y croyait pas trop à cette prédiction de tous les prophètes finalement. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il consulte Michée, donc le prophète Michée, on a aussi un livre dans la Bible, et lui alors a prédit la défaite. Donc il a eu un autre message à transmettre que Josaphat pressentait. Et puis la fin du chapitre, donc c'est la fin, le roi Akab qui meurt au combat, et puis Akazia qui devient au pouvoir. On arrive au début du chapitre 2 avec l'intervention d'Élie qui dénonce la faute du roi Akazia, et une tentative d'arrestation d'Élie qui s'est mise au travers des plans d'Akazia. Donc Akazia souhaitait consulter les Baals pour savoir s'il allait survivre d'une blessure. C'est une histoire, il est chez lui, il tombe d'une fenêtre où il écrit qu'il est tombé par le treillis de sa chambre. Il s'est blessé et puis voulait consulter les Baals pour savoir s'il allait survivre à cette blessure. Et c'est là aussi qu'Élie dénonce cette faute du roi Akazia et qu'il tente d'arrêter Élie finalement suite à ça. Et on arrive ici dans ce chapitre 19 qui est cette transition ou cette transmission entre Élie et Élisée. Et à la suite, donc, on ne va pas l'étudier aujourd'hui, ensuite commence ce qu'on appelle aussi le cycle d'Élisée avec toute son action pour transformer le monde qui l'entoure et aussi par commencer par la ville de Jéricho. On voit tous les éléments biographiques d'Élisée. Un endroit, il se moque de lui, il lui dit « monte chauve ». Donc, alors ça, par rapport à ça, il y a un peu deux interprétations. Soit qu'il était effectivement chauve, comme on le voit sur l'image, soit aussi qu'il avait la coupe qu'avaient les moines où on rasait le sommet de la tête. Et ça s'expliquait aussi peut-être que c'était ça la raison pour laquelle il l'appelait monte chauve. Mais des éléments biographiques aussi assez étonnants. C'était un personnage étonnant qui a fait des grandes choses. Et on voit à la fin de sa vie un élément biographique qui est aussi interpellant. On le met dans un tombeau et puis on met une autre personne dans le tombeau avec lui, et au moment où cette personne touche les ossements de Élisée, il revit. Donc il y a comme une résurrection du contact d'un mort avec Élisée qui était mort. Lui-même n'est pas ressuscité, mais cette personne est ressuscitée. On voit des récits de miracles, hein. Vous connaissez aussi certainement l'une ou l'autre, qui prononce des paroles de bénédiction. Il a aussi jeté du sel dans des sources pour assainir la ville. Il a secouru une veuve qui était dans le besoin par une multiplication d'huile. Il a ressuscité le fils de la Sunamite d'une manière un peu étrange. Il s'est couché sur cet enfant. Il s'est couché sur lui et puis il l'a réchauffé et puis cet enfant est revenu à la vie. Il y a aussi la guérison de Naaman, le lépreux. Voilà, ça c'est ce qu'on voit un peu dans des chapitres qui suivent. Il y a aussi des récits qui nous parlent de son serviteur, Géasi, et finalement aussi son implication, des histoires qui mettent en scène aussi des responsables politiques, comme par exemple l'expédition militaire contre le roi Moab, c'est dans le chapitre suivant, dans le chapitre 3. Mais revenons-en à cette histoire que nous avons lue. Je me suis focalisé un peu plus sur l'histoire d'Élisée, donc mon focus est plutôt sur Élisée que sur Élie. Si je résume en quelques mots, aussi avec mes propres mots, il y a eu d'abord un passage de témoin effectif qui a eu lieu à ce moment-là, bien que la décision avait déjà été prise avant. Hein, on l'a lu à la fin du chapitre 19, on voit que là, Élie passe le témoin, il lance son manteau aussi à Élisée et il l'a finalement nommé comme son successeur. Mais ici, on voit le passage effectif de témoin. Il y a une insistance d'Élisée ensuite de rester avec Élie dans ses trois déplacements. On l'a lu, à Gilgal, à Bethel, de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au bord du Jourdain. Donc il a voulu rester avec lui, il a insisté de rester avec lui. Et chaque fois, trois fois, il lui dit de rester ici, de ne pas venir avec lui. Et lui, il lui répond, si je prends mes propres mots, « Tant que tu vis, tant que le Seigneur vit, je ne te quitterai pas. » Donc il lui dit « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Élisée est au courant de ce qui va arriver avec Élie et les prophètes le lui rappellent à deux reprises « Mais tu sais qu'on va, tu vas bientôt partir. » Et puis lui, comment il réagit, il dit « Taisez-vous. » Donc je pense qu'il était un peu frustré. Et je me suis aussi dit des fois quand on nous annonce des choses qu'on sait qu'ils vont arriver, il y a des gens des fois qui nous rappellent des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Tu sais ce qui va arriver, c'est ça. Hein. Eh ouais, laisse-moi, je sais, je sais. Il avait un petit peu de, je pense aussi un peu une réaction, un peu de colère. Il savait, mais d'un côté, il ne voulait pas qu'on lui rappelle. C'était quelque chose de difficile aussi pour lui, de savoir que son maître, finalement, son maître prophète, allait le quitter. Après, il y a le passage du Jourdain sec, après qu'Élie a frappé les eaux avec son manteau. Pendant le passage, Élie demande à Élisée, « Mais qu'est-ce que tu veux que... Demande encore une chose. » Ça m'a frappé, c'était durant le passage du Jourdain qu'il lui demandait ça. Donc c'était au milieu de ce miracle finalement qu'il lui a demandé aussi quelque chose. Et c'est là que Élisée demande une double portion du souffle. Dans la traduction de Nouvelle Bible Second, on parle du souffle. Dans beaucoup d'autres traductions, on parle de l'esprit. Donc le mot « ruach » en hébreu ou bien aussi « pneuma » en grec, c'est le souffle, l'esprit. Que Élisée a demandé. Ce qui lui sera accordé avec la condition aussi qu'il voit ses propres yeux lorsque Élie monte au ciel et qu'est emporté par chars et des chevaux de feu. Et c'est là qu'on entend aussi Élisée qui crie « Père, Père, chars et attelage d'Israël ». Il a comme un cri, je pense aussi un cri on peut l'interpréter de plusieurs manières, je pense, mais il se voyait tout à coup un peu abandonné, je pense aussi, par son père. Père spirituel qui le quittait et il se retrouvait ensuite seul. Il y a eu la séparation après d'Élie qui est suivie d'un acte qui signifie soit il a déchiré ses vêtements, on peut l'interpréter soit comme son deuil, on faisait ça aussi à l'époque quand on avait un deuil, on déchirait ses vêtements, mais ça peut aussi être interprété comme une façon de dire maintenant il y a un changement dans ma vie qui arrive. Il ramasse son manteau. Et puis ici, il imite Élie, il a pris son manteau, il défie Dieu pour traverser le Jourdain. Et puis on dit qu'il frappa les eaux avec le manteau d'Élie en criant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Donc il a voulu comme un peu défier Dieu et en même temps aussi un peu imiter ce qu'il avait appris aussi avec Élie. Et à la fin, on voit les 50 prophètes qui reconnaissent le souffle d'Élie et reconnaissent qu'il repose dorénavant sur Élisée. Et en même temps, il souhaite aussi envoyer 50 vaillants hommes pour le rechercher. Donc, c'est vrai qu'il est juste parti, il n'est pas mort. C'est quand même une situation extraordinaire, il est juste parti, il n'est pas mort. Donc, ils se disent, une réaction tout à fait humaine, si on ne l'a pas vu mourir, si on ne l'a pas enterré, si on ne l'a pas enseveli, il doit certainement réapparaître quelque part. Et c'est là qu'il demande l'autorisation un peu à Élisée, mais donne-nous, envoie ces hommes. Non, est-ce qu'on peut envoyer ces hommes? Puis d'abord, il dit non, vous ne pouvez pas. Après, ils insistent un peu et finalement, il laisse faire. Il dit, ben allez-y, finalement. Et puis, il le cherche pendant 3 jours, 3 nuits sans succès. Et puis, Élisée, peut-être il les culpabilise un petit peu en leur disant, ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas. Je vous avais bien dit que vous n'allez pas revenir. Lui, il était convaincu. Mais finalement, ces 50 hommes devaient le voir aussi de leurs propres yeux. Alors, qu'est-ce que ça signifie un peu pour nous aujourd'hui? On peut retirer plusieurs choses ce texte. J'ai pris quelques éléments, mais je pense qu'il y en a bien plus qui pourraient aussi vous interpeller. Je vois tout d'abord, et c'est ce qui a aussi été un peu le déclencheur du choix de ce message, c'est un exemple de passage de témoin, de transmission, et je pense que c'est inspirant pour nous, soit à titre personnel, soit à titre aussi communautaire. On parle aujourd'hui de mentorat, de coaching ou même de discipula entre généralement un plus aîné et un plus jeune. Il est dit à deux reprises, et ils marchaient ensemble. Donc on voyait qu'ils vivaient, ils marchaient ensemble. Et une fois, il est même précisé qu'ils marchaient ensemble et parlaient ensemble. Donc ils ont passé du temps ensemble, Élie et Élisée. On ne sait pas exactement combien de temps ils ont passé ensemble, mais ils ont marché ensemble avant de se séparer. Ça serait bien sûr un thème. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignements sur le mentorat, le coaching et comment faire ça, et comment on pourrait aussi l'appliquer dans nos vies et peut-être dans notre église aussi. Les nouvelles générations, les plus jeunes viennent, etc. Ce n'est pas le but du message, mais ça, c'est un exemple aussi qui peut nous être certainement utile. On voit Élisée qui est déterminé. Hein. La détermination, ici, on la voit chez Élisée. Trois fois, il lui dit, reste, non, je viens avec toi. Je ne veux pas te quitter. Il est intentionnel, donc il ne sait pas juste, ouais, je te suis parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Il est l'intention, très intentionné dans ce qu'il fait, et il est fidèle. Il est fidèle à son maître jusqu'au bout et on a l'impression, j'ai l'impression qu'il veut rien manquer pour devenir son digne successeur. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, il savait qu'il avait reçu cette mission de devenir son successeur et il voulait vraiment jusqu'au bout apprendre, voir ce que Élie allait lui transmettre. Et je pense qu'il sait aussi que voilà, la fin de la vie d'un homme comporte souvent des paroles, voire des actes marquants pour ceux qui restent. C'est des fois ces paroles, la fin de la vie d'un homme, qu'on retient. Et peut-être qu'il le savait aussi, dans le fait qu'il ait dit, je vais aller jusqu'au bout. S'il meurt, il va encore certainement me dire quelque chose avant. Ou s'il part, il va me transmettre encore quelque chose que j'ai besoin de savoir. On voit aussi qu'il demande, quand Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux demander? Et il demande une chose, pour moi, essentielle. Il ne demande pas. Oui, il aurait pu demander pas mal de choses, mais il demande quelque chose qu'il a d'essentiel, il demande son esprit, donc ce qui l'anime vraiment. Et pour nous, c'est l'esprit de Dieu, vous l'aurez compris, qui nous anime, qui est notre essentiel, qui est notre souffle, qui fait qu'on vive aujourd'hui, qui fait que la vie existe sur terre, c'est le souffle, l'esprit de Dieu, qui a de réels effets dans notre vie. Élie et Élisée, ensuite Élisée seul, ils sont arrêtés par le Jourdain. Ils sont arrêtés par le Jourdain et puis on voit que grâce à leur acte d'autorité, ils prennent le manteau, ils frappent les eaux et à la puissance de Dieu qui ici défie les lois naturelles, ils ont pu poursuivre leur chemin. Et cette autorité qui est exercée ici par les deux prophètes, Élie et Élisée, est pour nous aujourd'hui l'autorité que Jésus met à notre disposition pour faire des miracles, pour surmonter nos obstacles. Et j'ai pensé à ce verset que l'on lit dans les évangiles, et j'ai pris le texte qui se trouve dans Marc, qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc on voit l'autorité qu'ils ont prise ici. Nous, par Jésus, il y a aussi une autorité qui nous a été transmise. Et j'aimerais maintenant, pour faire aussi un peu une pause dans le message, qu'on écoute un chant ensemble. Donc, ça sera un culte chant, encore un chant de plus, qui nous parle des chaînes qui peuvent être brisées. Break every chain. C'est un chant, il sera en anglais. Alors, j'ai traduit ici les paroles en français. Donc, je vais le passer en anglais, parce que je n'ai pas trouvé tellement de bonnes. Il existe aussi en anglais, en français, le chant, il a été traduit aussi, interprété, mais il n'y a pas des très bonnes. Alors j'ai pris plutôt l'original en anglais. Et il dit, il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, toutes les chaînes, un sacrifice pleinement suffisant offert en toute liberté, un prix si élevé pour notre rédemption qui nous ouvre grand les portes du ciel. Une armée se lève pour briser les chaînes. Toutes les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Vous allez voir, voilà, il y a aussi plusieurs répétitions de ce chant. Et je vous invite de l'écouter et en même temps dans une attitude de prière. Si, voilà, peut-être que vous avez, parce qu'une chaîne, ça peut être pas mal de choses, hein, quelque chose qui bloque, quelque chose qu'on ne sait pas, une situation, on est bloqué, que vous puissiez aussi proclamer qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Que ça puisse aussi être un encouragement, ça puisse nourrir notre foi. Et puis voilà, pendant qu'on écoute ce chant, dans une attitude de prière, si Dieu vous met quelque chose à l'esprit, une chaîne que vous avez envie qui brise ou qui est en train de se briser, mais qu'elle se termine. Il y a peut-être déjà une. Vous voyez déjà quelque chose qui est en train de se briser, mais que vous puissiez alors proclamer le nom de Jésus, qu'elle se brise cette chaîne complètement pendant qu'on va écouter ce chant. Ça joue comme ça? On peut y aller alors, si c'est. Je vous invite à vous lever, on va juste prendre une prière ensemble. Seigneur Dieu, nous avons chanté, nous sommes une armée qui se lève et nous voulons nous lever ce matin, Seigneur, et être cette armée, pas une armée qui va faire de la violence, mais une armée remplie de ton amour qui va au combat, Seigneur. Et merci parce que tu es un Dieu puissant et nous voulons nous le rappeler ce matin. En ton nom, Jésus, il y a la puissance, cette puissance qui s'est manifestée au temps d'Élysée. Eh bien, ce matin, nous voulons proclamer que cette puissance est toujours en action et elle est bien plus grande que ce qu'on peut souvent s'imaginer, Seigneur. Renouvelle notre foi, Seigneur, en toi, et nous voulons élever ton nom, ce nom puissant, le nom de Jésus. Et merci pour toutes ces chaînes qui sont en train de tomber, les prières qui t'ont été élevées aussi durant ce temps. Et fais grâce pour que ces chaînes tombent, Seigneur, et que nous puissions marcher toujours plus librement à ta suite, toujours plus remplis de compassion, Seigneur, et toujours plus aussi tournés vers notre prochain qui ne te connaît pas encore, Seigneur. Merci parce qu'il y a de la puissance en ton nom, Jésus. Amen. Dans ce texte que nous avons lu, on voit aussi cette transmission de bénédictions qui se multiplie. On voit l'onction qui repose sur Élisée, sur Élie, pardon, qui repose dorénavant sur Élisée, une fois que Élie a quitté. Et cette transmission, elle était même visible. Il y a les apprentis prophètes hein, qui ont réalisé tout à coup, ils disent, ah mais Élisée a vraiment reçu cette onction d'Élie. Élie avait laissé un héritage à Élisée, et puis ils disent le souffle d'Élie s'est posé sur Élisée. Alors comment ils l'ont vu? D'après le texte, ça semble assez clair qu'ils l'ont vu. Je pense qu'ils ont vu la scène, ou peut-être qu'ils ont vu cette scène, mais ils ont aussi vu quand Élisée a aussi ouvert avec le manteau d'Élie le Jourdain. Mais ils ont vu que finalement cette puissance qui accompagnait Élie, elle est dorénavant aussi sur Élisée. Donc et à son tour, ça se multiplie. Élisée, on verra aussi plus tard, avec dans les textes plus loin, on voit qu'il accompagne des jeunes prophètes, des apprentis prophètes, et puis lui devient à son tour un peu leur maître et leur apprend des choses. Donc cette transmission de bénédiction, cette multiplication, on la voit ici à l'œuvre entre Élie, Élisée, et Élisée qui donne plus loin aussi aux autres prophètes. Un autre point que j'ai aussi, qu'on peut voir aussi dans ce texte que j'ai pris aussi comme une interprétation pour nous aujourd'hui, c'est qu'Élie est audacieux. Il demande une double portion du souffle d'Élie. Il manquait pas de souffle, on dit des fois. Hein. Il demande la double portion du souffle d'Élie. Et puis dans Deutéronome, selon le texte dans Deutéronome 21-17, cette double portion, la double portion d'un héritage en général était réservée au premier-né d'une famille. Donc Élisée se considérait un peu comme le premier descendant d'Élie, son successeur premier-né. Et je vois aussi à travers cette double portion la Pentecôte pour nous. Jusqu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu était déjà bien présent et agissait. Il agit depuis la création. Le souffle de Dieu était déjà, au moment de la création, présent. Puis lors de la Pentecôte, il y a eu comme une double portion qui a été donnée à la première Église pour commencer son action d'évangélisation, mais son action aussi d'apporter le royaume de Dieu sur terre. Et puis c'est accompagné aussi par des signes miraculeux, comme pour Élisée, qui a fait beaucoup de miracles dès le départ de son ministère, qui a commencé ici à Jéricho. Et puis aussi de manière similaire, les disciples ont vu partir Jésus et ils ont ensuite reçu de Dieu l'Esprit qui reposait sur Jésus, donc qui s'est aussi vu par les miracles, mais aussi même par des langues de feu qui se posaient sur chacun. Ça se voyait même, donc l'Esprit s'est fait visible par ces langues de feu qui se sont posées sur les disciples. Et puis, dernière signification que je voudrais aussi partager, ce sont Les chars et les chevaux en feu qui emportaient Élie, c'est un contraste saisissant, je trouve, avec la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu si on compare avec l'histoire d'Élie dans la grotte, ce qu'on a parlé l'autre fois, Dieu qui se trouve dans un doux murmure. Et je pense comme pour Élie et Élisée, qui a vu ce départ, Dieu est aussi bien ce feu puissant qui impressionne, qui dévore tout sous son passage, j'ai envie de dire, ce feu qui pourrait nous anéantir hein, sans problème. Et ce Dieu, c'est ce même Dieu qui a une présence invisible et presque inaudible. Ce même Élie qui a été dans cette grotte, il avait envie de mourir avant, il était faible, il a besoin d'entendre ce Dieu silencieux, de faire silence en lui-même. Ce même Élie part dans ses chars de feu pour aller au ciel. Je pense qu'il n'est pas mort. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui encore les Juifs hein, attendent Élie. Ils attendent le retour d'Élie parce que la tradition, ben, le texte le dit aussi, il n'est pas mort. Donc s'il n'est pas mort, il pourrait revenir. Et la tradition, je me suis laissé dire, je n'ai pas vérifié, mais encore aujourd'hui, même lors du sabbat, on laisse toujours une place libre à table pour Élie, pour que si Élie revenait, il y aurait une place aussi pour lui. En conclusion, je vois dans ce récit clairement un avant et un après. Un avant et après le départ d'Élie pour Élisée. Donc avant, on voit Élisée qui suit, qui discute, qui observe, qui essaie d'imiter certainement aussi Élie. Il est collé à lui, il veut recevoir toutes ses instructions, les bénédictions, l'expérience de son maître prophète avant la séparation. Et on ne sait pas combien de temps voilà, il était avec lui. Dans 1 Roi 19, là, il y a la succession qui a lieu, donc 2-3 chapitres avant, jusqu'au départ dans ce texte que nous avons lu. Et puis, il y a un après. Donc, l'après, là, on est un peu à la transition, mais il y a l'après qui vient. Élisée est seul. Il est revêtu de la puissance qui reposait sur Élie, même la double portion. Et puis, il commence d'agir, de proclamer des paroles qui impactent et transforment les gens et l'environnement pollué par le mal. Je prends ce mot pollué parce que la première chose qu'il a fait, il a dépollué une source d'eau à Jéricho qui était polluée. Il a mis du sel dessus pour assainir cette source. Alors on peut le prendre, il y avait certainement l'aspect réel, physique. Hein. Il n'y a plus d'eau à boire, Jéricho, et ce qui était dramatique. Mais voir aussi la pollution du mal de façon générale. Il a fait ça, il a agi. Il a amené le bien là où il y avait le mal en... Par exemple, pour le premier miracle, en jetant ce sel dans cette eau polluée. Et puis à l'image d'Élie, il devient lui-même, mais plus collé à Élie, mais je pense collé à Dieu, près de Dieu. Il voyait que Élie était marché avec Dieu, et là il a aussi lui dû s'approprier Dieu, j'ai envie de dire, mais c'est je ne marche plus avec Élie. Mais mon maître, maintenant, j'ai pris un peu la place d'Élie qui était toujours en communion avec Dieu, qui recevait les paroles de Dieu. C'est moi qui ai cette mission maintenant. Et il était, en guillemets, collé à Dieu. Et aussi, il est devenu maître des disciples prophètes. Et on parle aujourd'hui volontiers, et moi en premier, aussi en travaillant avec le réseau du mouvement missionnel qu'on voit aujourd'hui. Hein, le mouvement missionnel qui est un mouvement qui implique aussi le discipulat, de transmettre quelque chose aux suivants, de marcher avec eux. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on parle là aujourd'hui. Mais on réactive, je pense, quelque chose. Déjà à l'époque, je vois vraiment un discipulat, un travail discipulat entre Élie et Élisée. Et Élisée a aussi transmis ça plus loin aux autres prophètes. Alors pour terminer, j'ai sous forme de questions un peu qu'on pourra aussi encore poursuivre par après. Où en sommes-nous aujourd'hui dans nos transitions ou nos transmissions bénies? Est-ce que peut-être qu'on est dans une phase de transition entre un avant et un après, que ce soit à titre, ça peut être une transition générationnelle dans nos activités, ça peut être aussi une transition dans la manière de vivre l'Église, vers un nouvel équilibre peut-être entre l'institutionnel, l'Église en tant que telle, et le missionnel. On est peut-être dans une phase de transition aussi. Ça peut être des transitions au niveau personnel, familial, professionnel. Et puis un dernier point, on est peut-être aussi dans une transition. On a beaucoup de choses aujourd'hui, on connaît beaucoup de choses de l'Évangile. J'ai envie de dire, on est gavé de beaucoup de choses. Et quand on va sur Internet, tout ce qu'on trouve aujourd'hui d'informations, ah bon, il y a aussi du moins bon, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de connaissances, on sait beaucoup, il y a beaucoup de messages et tout. Mais peut-être qu'on est dans une transition d'une phase un peu de, entre guillemets, gavage de connaissances, de discussion, d'observation, voire de critique, vers une action puissante de Dieu à travers nous, revêtue de la double portion de l'Esprit. Et la double portion, je vois un Dieu généreux, c'est pas la double portion, mais c'est une portion généreuse d'esprit qu'il nous donne. Et que ça, que c'est un impact sur notre société de partager, de vivre ça vraiment avec les autres de plus en plus. On est peut-être aussi là dans une phase de transition. Et avec la pandémie, je pense qu'on est certainement dans une phase de transition d'un avant-pandémie et un après qui se dessine, sans se dessiner peut-être pour l'instant. En tout cas, du point de vue historique, maintenant, est-ce qu'on va être après comme avant? Est-ce que l'homme va changer? Est-ce qu'on va... Ça, c'est encore un peu difficile à dire. Mais historiquement, bien voilà, c'est une pandémie quand même qui est là et qui va marquer notre histoire. Personne de nous a vécu de pandémie jusque-là, donc il y aura certainement un avant et un après pandémie, du moins historique, mais peut-être aussi au niveau de ce que Dieu veut faire et de ce que l'Église va vivre et comment elle va ressortir aussi de cette pandémie. Je ne sais pas dans quelle direction ça allait, je ne sais pas non plus ce que Dieu fait aujourd'hui, je ne sais pas non plus si on entend des prophéties de Dieu, de Jean, pardon, qui nous donnent des prophéties sur ce que Dieu veut. Alors, on les respecte, on les entend. Est-ce que c'est vraiment ça qui va venir? Peut-être. Mais au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, je pense ce qui est important, c'est de savoir que Dieu nous accompagne dans cette transition, ou dans ces transitions vers un royaume de Dieu qui vient, et un royaume de Dieu magnifique, rempli de la gloire de Dieu. Moi, je crois au royaume de Dieu qui va venir transformer le monde, qui va venir un royaume magnifique. Et peut-être que là, on doit aussi le dire et en parler autour de nous de ça. J'écoutais un message de Andreas Keller quand je préparais ce message, et puis j'ai eu un contact avec un ami. Et puis il m'a dit, ah, c'est intéressant que tu parles des livres. J'étais à une rencontre discerner les temps. Vous avez peut-être entendu parler, à une rencontre à Yverdon, discerner les temps. Puis il y a quelqu'un qui a parlé d'Élysée. Et puis j'ai dit, ah, je vais peut-être écouter, voir un peu ce que lui dit. Et puis à la fin, je reprends juste un élément de ce qu'il disait. Par rapport à ça, il a une fois une rencontre, c'est un pasteur de la Schleife à Winterthur, peut-être ça vous connaissez, le mouvement de la Schleife. Et puis, ils sont des fois un peu dans le radar des sectes, hein, ou bien respectivement, ils ont à Zurich, à Winterthur, des gens qui suivent les églises, et puis ils font les tournées, ils vont voir et tout, donc ils ne sont pas conseillés comme sectes, mais ils sont toujours un peu observés et tout. Puis une fois, ils ont eu une discussion, une dame qui est venue, puis ils ont eu un peu un débat avec lui aussi, puis la dame lui dit, mais... Quand c'est que vous arrêterez un peu dans les églises de faire peur aux gens, de dire qu'il y aura une catastrophe mondiale, que ça sera... Et puis lui, il a dit, mais et moi je suis plutôt de cet avis-là, mais madame, on a un royaume de Dieu qui vient, qui est magnifique, un royaume de Dieu qui va transformer. Donc il avait presque envie de dire, il a pu, en guillemets, dire à la dame d'être un autre discours que ce qu'elle avait entendu jusque-là, et qui peut aussi peut-être impressionner, et puis il a pu témoigner du royaume de Dieu qui vient, mais ce ne sera pas un royaume où on sera triste, où on va être malheureux. Alors ce qui se passera avant, hein, il y a des textes qui nous parlent aussi, qu'il y aura des moments difficiles, mais au-delà de ça, comment ça sera? Déjà maintenant c'est difficile, hein, et puis il y a 50 ans c'était déjà difficile, donc est-ce que ça sera encore plus difficile? Peut-être. Il faut... Mais surtout se préparer à voir ce royaume de Dieu qui vient, qui va nous transformer, cette nouveau ciel, une nouvelle terre qui vont venir. Et je trouvais intéressant, voilà, c'est des fois aussi des risettes qu'on doit faire auprès des gens autour de nous, des fois, de leur dire aussi des choses qu'ils ont peut-être une idée qu'ils ont, mais leur dire autre chose aussi. Et c'est peut-être aussi ça, être ce sel qui peut dépolluer les sources aussi. Alors j'aimerais terminer encore par la prière. Mais Seigneur, donne-nous le courage de demander. Aussi d'être intentionnel et fidèle comme Élisée l'a été avec Élie. Que nous soyons aussi toujours ouverts à ton esprit que tu donnes et que tu donnes en abondance la double portion et même bien plus. et aussi qu'avec ta puissance, nous agissions avec détermination et amour, afin que le monde te voie à travers nous. Aide-nous à accepter et à vivre pleinement les transitions dans nos vies, dans notre Église, sur chacun de nos chemins sur lesquels nous marchons. Et Jésus, je veux te dire, tu es notre maître et nous voulons te suivre de près, de très près, comme Élisée a suivi Élie. Et ceci jusqu'au bout. Pour Élie et Élisée, c'était quand Élie est parti au ciel. Sur nous, pour nous, ce sera jusqu'à la fin de notre vie sur terre, en sachant que ce sera que le début d'une nouvelle étape. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.